France Musique. France Musique. Planète Okora. Aliette Delalleux.
On laisse passer le tracteur.
Sinon, on a qu'à le prendre en son sol.
Ah ouais, grave.
On fait rien.
C'est l'histoire de les petites filles et peu du loup, que vous connaissez bien. Ayez-vous une fouet, une faune, allez-vous une petite fille. Elle est dit un, il fait une épogne, un gâteau de pain plutôt. Puis il mettait une chaude crème dans les petits pots, de veler et porter les mémères, côté l'autre des côtés du beau.
Yes. On tente maintenant, on voit, jusqu'au prochain tracteur, ce que ça fait. Ouais. Alors on a un choix là devant nous, c'est soit on joue un morceau composé par une femme, mais pas d'ici, ou un morceau composé par un homme, mais d'ici. Parce qu'on peut pas dire qu'Evine Girardon soit du Morvan, ce serait quand même s'approprier quelque chose qui n'est pas vrai. Puis bon, c'est un homme, mais ça va.
Avec Aline et Aline, on a descendu le chemin en contrebas du village d'Anneau. On a laissé le lavoir sur notre gauche et on s'est installé juste à côté d'un cours d'eau. Elles sortent leurs instruments de musique, vielle à roue, violon, accordéon, et elles jouent. Notre documentaire part de là, d'un bourg situé au cœur du Morvan, à quelques petits kilomètres de la Nièvre. On y croise des artistes qui cherchent, s'inspirent et créent autour des musiques traditionnelles. On y entend souvent le nom d'un certain Achille Millien. On y parle de langue, on y écoute des vieilles bandes sonores de collectage. On y raconte la transmission et on se demande comment partager ces musiques orales en milieu rural. On découvre aussi petit à petit l'histoire et les voix des chanteuses en Bourgogne. C'est un documentaire d'Aliette Delalleux réalisé par Max James. Bienvenue dans le Nivernais Morvan.
Ben alors, le Nivernais, c'est le département de la Nièvre, moins le Morvan, c'est-à-dire moins la partie est de la Nièvre, qui est une zone de moyenne montagne et basse montagne, hein, où il y a déjà un répertoire un petit peu plus spécifique et où il y a aussi une façon de danser un peu plus spécifique aussi, plus sautillante.
Mais j'ai l'impression que dans la Nièvre, oui, effectivement, ça a été assez vite vu comme une région où il n'y avait rien, parce que c'était pas la peine de s'arrêter collecter, c'était pas assez typique, je dirais. C'est trop civilisé comme région, a priori. Donc tu traverses et puis tu vas voir dans les montagnes où, a priori, là, les gens seront plus sauvages. Ça joue aussi au cliché, je pense, les collectages, ou la recherche de la vérité avec un V majuscule.
Et le Nivernais-Morvan, pour moi, ça a vraiment du sens, parce que effectivement, ce sont deux entités différentes d'un point de vue géologique. Voilà, le Morvan, c'est un massif granitique, c'est la moyenne montagne. Le Nivernais, c'est plutôt un relief de côte. Mais culturellement, en tout cas pour la musique, c'est la même ère culturelle. On retrouve dans l'instrumentarium du 19e de la vielle à roue, de la cornemuse, et puis une danse endémique qui est la bourrée.
Musicienne en Nivernais Morvan, l'art au quotidien. Aliette Delalleux.
La bourrée du Morvan, c'est Laure qui demande ça.
Donc moi je peux montrer, mais il faut de la musique, ouais. Parce que sinon on peut pas.
Aïe. Deux temps, trois temps.
Ah bah, trois temps.
Ah bah,
trois temps. Sans vouloir faire cliché.
Est-ce qu'il y en a qui ont emmené leur instrument?
Ah.
Ça peut se faire en chantant.
Alors, par contre, il faut que tu viennes me danser avec moi.
Ok.
Parce que sinon, ça marche pas. Regarde, on va faire ça. Ça, c'est le pas.
Ok.
Après, il y a des déplacements.
Ouais.
C'est un peu comme si on se courait après, tu vois. Enfin, donc, la première fois, c'est je te cours après tu me cours après, après tu cours après, après tu me cours après. Après, tu retournes dans ton coin.
Ok.
Attends, j'essaie de me rappeler. Hein. Aline, on y est là?
Ah oui, oui.
Après,
oui.
Je
vais passer pour l'arbitre du bon goût. Mais enfin, la bourrée est une danse d'homme, je vous le rappelle, mesdames.
Non, alors, ah non, non, faut pas après au début. Non, non, c'est qu'en fait, on vient se voir. Puis après, on recule.
Oui, c'est ça.
Puis après, on vient se voir, puis après, on recule. Et après, on se court après. Et ah, c'est moi qui viens te voir, et après, tu viens me voir, et après, tu viens te voir, et après, tu viens me voir, et après, on arrête. Il faut faire ça avec le même pas.
Voilà. Okay.
Puis on fait deux fois. La première fois on fait le pas, puis la deuxième fois on se court après.
Okay.
D'accord. Tu me suis, tu vas.
Je ne suis pas d'ici, je suis de la montagne. Je ne suis pas d'ici, je suis de mon pays. Je ne suis pas d'ici, je suis de la montagne. Je ne suis pas d'ici, je suis de mon pays. Dans mon pays, on garde les vaches.
Quand on parle de danse en région centre, on parle bourré. La bourrée la plus ancienne est la bourrée de temps. Arrive dans le 19e siècle la bourrée trois temps. En Hivernais, Berry, Bourbonnais, tout ça va plus ou moins se perdre. En Morvan, comme c'est une région de montagne, on pense que les traditions sont gardées un peu plus longtemps et reste la bourrée trois temps comme bourrée principale. Voilà. Avec un style de danse qui est leur style de danse. Mais la bourrée de temps, c'est vraiment la base qui est évoquée par Georges Sand, qui est évoquée la plus rurale profonde.
Dans mon pays, on y garde les vaches. Dans mon pays, on garde les brebis.
Chaque habitante du Morvan dira toujours que son village est le centre du Morvan. Ça, de toute façon. Alors, en tant qu'habitante d'Hanau, je ne vais pas déroger à la règle. Je vais dire évidemment que Hanau est le centre du Morvan.
Bonjour.
Bonjour Agnette.
Comment vas-tu? Bienvenue à la maison du patrimoine oral de Bourgogne. Depuis les années 70 sur la commune d'Hanau, il y a un mouvement associatif fort dédié à la promotion, à la valorisation des cultures populaires en Bourgogne.
Caroline Daroux, directrice de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne.
Et que ces associations demandaient un lieu pour se rassembler et pour promouvoir justement leur activité liée à l'immatériel, hein, le chant, la danse traditionnelle, la musique traditionnelle, mais aussi les récits de vie, les contes, les savoirs liés à la nature, enfin tous ces éléments qui sont finalement des catégories de savoir des cultures populaires.
Les petites filles au pertype, les petites filles en chemise, dans le beau, à rencontrer Ilou.
L'avez-vous donc te fait, que dit Ilou?
Ben, la petite fille a dit, il m'en va chez mes mères, il pourtine pogne, peu il pchot crame dans les petits pots. Ah oui, qu'a dit Ilou, pour qu'est dans chemise que te vais passer? Par quel chemin tu vas passer? Les petites a dit, il va prendre le chemise à épingle.
Ah bon, qu'a dit Ilou, moi il va prendre le chemise à aiguille.
Elle est partie.
Il y en a combien en Bourgogne de langues?
Les variétés géographiques du bourguignon, t'en as, je pense, tu vois, une petite dizaine. Hein, parce que si tu prends au sérieux le fait que dans l'Aussois, on parle pas tout à fait comme dans le Morvan. Après, quand tu descends vers le Charolais, ça commence à se distinguer. Quand tu vas dans la Bresse, ça va carrément ressembler au franco-provençal quand tu te rapproches de l'Ain, tu vois. Et donc, il y a des variabilités comme ça en fonction des aires linguistiques qui sont autour, quoi. Dans le Charolais, ça va se rapprocher de l'Occitan, tu vois, plus tu vas descendre. Et du coup, ça colore la langue différemment. Et nous, au milieu, là, bah, c'est un peu brut, quoi.
Coucou, poulet fermé, pas merdier, pas proyer.
Mes parents si mérientaux, moi gardelane, moi gardelane. Mes parents si mérientaux, moi gardelane, ton monceau. Ma quand mon tour verré, garderai l'âne, garderai l'âne. Ma quand mon tour verré, garderai l'âne qui voudrait.
Nous ici, on est dans un territoire linguistique qui est celui de la langue d'Oïl, qui est très peu connue, c'est pas comme l'occitan. Et aussi, ces langues sont un peu victimes de leur similarité avec le français. Parce que dans les langues d'Oïl, il y avait aussi le parisien, il y avait aussi la langue qui s'est développée en devenant le français. Et donc cette proximité a fait que longtemps, on a considéré que les gens qui parlaient cette langue, c'était juste des gens qui parlaient mal le français. Et ça a construit des stigmates très profonds, avec une vraie difficulté dans tout ce nord de la France, là, de revendiquer la langue, parce que c'était une discrimination qui était très forte hein, par rapport justement à ce mépris.
Est-ce que tu serais à l'aise et tu accepterais de dire en morvandio un petit mot de bienvenue juste pour l'entendre parler?
Ouais, je peux te le dire à toi. Ouais. Je lui dis, Aliette, il se bat un œil de te recevoir Itchi. Dans mes salles, les vous qui montrent comment on fait pour jouer les musottes. Donc moi je m'appelle Vincent Belin, j'ai 57 ans, je suis musicien, donc je suis chanteur et joueur de cornemuse du centre de la France et j'enseigne cet instrument depuis 1997. Si on revient justement à cette histoire de Nivernais-Morvan, là il y a deux choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que dans le Morvandio, c'est, on va dire, la poussée la plus occidentale du bourguignon. Et c'est du bourguignon, mais qui va se mélanger avec des langues du centre de la France. C'est ça. Et le Nivernais, c'est l'inverse. Ça serait une des langues du centre de la France, mais qui va se teinter de bourguignon plus on va vers l'est, en fait. Donc il y a plein de zones de transition comme ça.
Quand les gens viennent ici se rendre compte qu'en fait, ils en ont déjà entendu, mais ils ne l'ont pas identifié comme langue. Donc c'est pour ça qu'on essaye de remettre très visible les mots du paysage, comment est-ce qu'on dit ce qu'on voit. Là, par exemple, nous, on est un pays de bocage, il y a énormément de haies. Et on dit toujours aux gens, vous voyez, ici, pour dire la haie, on a plein de mots. On a les tresses, les bouchures, les pléchis, les terlés. Et en fait, ça n'est pas la même haie. Parce qu'ici, c'est important de comprendre la différence des usages de la haie, la différence de fabrication de la haie. Donc, en fait, cette langue, elle porte un savoir très technique lié au milieu, qui, dans nos temps de transition, de dérèglement climatique, tout ça, c'est un savoir qui est décisif, en fait.
Les gens en s'accordent ou pas ? Je préférais dire si t'es mieux pour balancer tes contrites et debout. Ils
sont pas de coloratour, Vincent Belin.
Avec un marchand de sabots,
oh, rien guette.
Avec un marchand de sabots,
oh, rien go.
Avec un marchand de sabots,
oh, rien guette.
Avec un marchand de sabots,
oh, rien go.
Aïe doux, non, mais yaze, du pêchante, du fumaise. Aïe doux, non, mais yaze, du pêchante, du fumaise. Peu du séplage en sabot,
oh, rien guette.
Peu du séplage en sabot,
oh, rien go.
Peu du séplage en sabot,
oh, rien guette.
Peu du séplage en sabot,
oh, rien go.
Les lancettes, on vous êtes polis, tout le monde.
Yann, c'est ce projet de chanter en bourguignon morvandio. Donc on s'amuse à jouer justement sur la langue et ses versions, c'est-à-dire qu'on a repris pas mal de textes de Pierre Léger, donc un militant associatif de la langue bourguignonne. et qui est originaire de Montsauge, donc il a écrit dans sa langue maternelle, donc c'est le Morvandou plutôt de la région de Montsauge. Et puis l'idée, c'est d'en faire quelque chose de contemporain, voilà, et pas être complètement non plus dans de la musique traditionnelle. Voilà. Le projet initial, alors je ne sais pas si on restera sur ce projet-là, mais c'était de créer une sorte de transe morvandelle.
Le yarn, c'est vraiment... En fait, c'est quasiment pas de la musique traditionnelle.
Justin Bonnet, chanteur et directeur artistique du collectif Toema.
Ça reste en grande partie de l'oralité et ça naît, comme les projets que j'aime le plus, en fait, ça naît d'attachement entre les gens avec lesquels je travaille. C'est un attachement pour Vincent Belin qui chante avec nous, dont c'est la langue aussi, hein, le bourguignon morvandio. Un attachement pour Caroline Darroux qui depuis des années me dit c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un groupe professionnel qui s'empare de ce répertoire-là. Donc aimant cette langue, aimant Pierre Léger et connaissant un petit peu sa poésie, on s'est dit bah oui. Je me suis plongé dans Pierre Léger, dont j'ai à peu près rien compris. C'est quand même une langue assez difficile, finalement. On croit qu'on comprend et en fait, on ne comprend rien. C'est pour ça que j'avais envie au départ qu'on s'appelle Dans les nuées, c'est-à-dire dans la nuit, parce que quand on est dans le bourguignon, ben, on ne peut pas trop toucher les bords. Quoi. Enfin, il faut avancer un peu à tâtons parce qu'on est perdu, finalement, on ne comprend pas.
Aussi, c'est qu'on est entre deux, Élise Charles, chanteuse, accordéoniste et chef de chœur. C'est-à-dire que c'est une langue, le patois, là, qui sonne étranger en fait, avec des mots quand même qu'on reconnaît de notre langue. Donc, on a un point de rencontre là. Et en effet, moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'est pas tant le texte dans la musique, en général, hein, même dans la chanson française. Ça va être vraiment la vibration du morceau, quoi. Et je les choisis beaucoup comme ça, mes morceaux, en fait. Je cherche les petites pépites qui font vibrer et si possible, même qui font vibrer à la première écoute.
Vas-y, dis-moi, c'est quoi les paroles?
Monsieur, votre discours.
Bah oui, je suis bête.
Je suis pas encore, non.
Et loup est arrivé le premier chez les mémères. Le loup arrive chez les mémères, toque chez les mémères, honteur chez les mémères. Le loup aime les mémères. Mais le loup allait laisser les têtes de les mémères, qu'elle les mettait sur une assiette, sur le coffre. peut le sang de les mémères à l'ouvrir dans une shopping.
C'est bon.
Vas-y.
Chasseur, je suis un puissant seigneur. Tous mes biens je t'abandonne, en beau château je te donne. Bijoux, joyaux, montres en or et bien d'autres choses encore. Monsieur, votre discours m'outrage, c'est votre doux langage. Car si mon garde-moulin venait, il ferait du train. Craignez, fuyez sa colère, car il pourrait sans mystère vous apprendre à passer l'eau sans nacelle ni bateau. Et quoi ce gros lourdeau du village en aurait-il
le courage? Posséderait-il ton cœur ou revient de ton erreur? Crois-moi, tu seras.
Je suis née dans le Morvan. Et depuis que je suis enfant, je suis vraiment très attachée à cette région.
Maya Belin, étudiante et musicienne.
Parce que voilà, je sens un petit peu mes racines dans ce pays-là. Et j'ai un grand-père qui était aussi morvandiau, qui parlait patois morvandiau. Et ça m'a toujours aussi beaucoup fascinée. Et c'est pour ça que je pense que je suis très sensible à ce répertoire-là.
Et les filles de ce pays valent bien celles de Paris.
C'est en rencontrant la musique traditionnelle que je me suis dit que faire la musique, j'avais envie de le faire, j'avais envie de continuer et j'avais envie d'en faire mon métier.
Aline Dumont, chanteuse, accordéoniste et violoneuse.
C'est en rencontrant cette musique-là que ça fait ça.
Je me rappelle avoir vu dans un parc à Nanterre la grande bande de cornemuses qui était dirigée par Jean Blanchard. Il y avait donc Raphaël Thierry dedans et Bernard Jacquemin. Donc facteur de cornemuse dans la région. Et je me rappelle, moi, quand je les ai entendus, c'était physique en fait. Hein. J'avais des poils qui se dressaient sur les avant-bras. Je ne pensais qu'à ça. Quand j'étais dans le RER ou dans le métro, je prenais un stylo, je m'entraînais à travailler des morceaux sur mon stylo. On me regardait bizarrement. Voilà, c'était ça.
Et après, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues me chercher en disant bon, c'est super, maintenant tu t'es un peu attelé à ça, mais on sait, on voit le niveau que t'as et on sent le potentiel. Et du coup, tu vas venir avec nous. Et nous, on peut pas t'apprendre à jouer du violon, mais par contre, on peut t'apprendre à jouer de la musique. Et du coup, les gens avec qui on joue du violon, ils font ça. Donc débrouille-toi, trouve le moyen. Et du coup, il fallait trouver les moyens techniques. Parce qu'il n'y avait pas de cours de violon trad. Il y avait des cours de violon et des gens qui jouaient du trad. Et il y avait des cours d'autres instruments, mais pas de violon.
Je
trouve qu'il y avait des cours d'accordéon pas très loin de chez moi du tout, voilà, à Marzy, avec Fanny Voileau, c'était qui donnait des cours d'accordéon. Et j'ai tout de suite vraiment accroché avec non seulement l'instrument, mais aussi le répertoire, en fait. Enfin, moi, c'était surtout pour le répertoire. Je crois qu'on m'aurait proposé un peu n'importe quel instrument pour jouer de la musique traditionnelle, j'aurais dit oui, quoi.
Je crois qu'il y a tracteur et avion.
Ouais. Ah ouais, je suis d'accord, il y a avion aussi.
Elle s'appelle comment, celle-là?
Elle s'appelle « Ah, si j'étais mariée ». Et pour le coup, elle était collectée par Milien, mais auprès d'une femme.
C'est qui, tu sais, le jeu?
Il n'y avait pas vraiment le choix pour apprendre à jouer de la cornemuse en région Bourgogne. Il y avait un atelier qui était animé par Raphaël Thierry. C'était à Anneau, c'était l'association musicale d'Anneau, où il y avait des cours de cornemuse. C'était le seul endroit. Voilà. Et sinon, dans l'année, il y avait un moment régulier qu'on appelait les rencontres de Saint-Aignan, des rencontres organisées par l'UGMM, où pendant 3 jours, alors là, on allait emmagasiner un stock de mélodies, de coups de doigts, etc. Et il fallait que ça alimente à peu près une année entière de vie de musicien.
Et quand j'arrive à 15, 16, 17 ans...
Philippe Poulet, instituteur et musicien-chercheur.
C'est le revival aussi, et j'étends mon écoute et donc mon répertoire à tout ce qui sort dans le Berry, Bourbonnais, Nivernais, tout le centre France. Et en fait, il n'y a toujours pas d'école de musique, toujours pas de classe. Et donc, moi, j'apprends, mais je suis pas le seul, certainement, en mettant sur ma platine disque vinyle les disques sortis, Vielleux du Bourbonnais, des choses comme ça, le casque sur les oreilles, et je joue en même temps, je reproduis. Donc, en fait, c'est vraiment un apprentissage d'oreille et par imprégnation.
En fait, le véritable changement, il est arrivé dans les années 90 avec la création d'une classe de vielle à roue au conservatoire de Nevers par Dominique Forge. Et puis ensuite, la création de cette classe de cornemuse à Clamecy, ça c'est 1999, voilà.
Mon fils lui a bénéficié de l'apprentissage de la vielle en conservatoire avec un prof de vielle bien connu sur le Nivernais qui est Dominique Forge, qui lui a mis en place et qui a impulsé tout l'apprentissage, toute la diffusion des musiques traditionnelles pendant quasiment toute sa vie. Et on lui doit du coup une fière chandelle de ce côté-là, en Nivernais. Et donc quand Dominique Forge est parti en retraite, mon fils a pris sa succession en tant que prof de vielle au conservatoire à Nevers.
Est-ce que ça te gêne s'ils enregistrent un petit bout du cours, Arthur? Je vois que maman est pas partie. Non, ça te gêne pas? T'es sûr? Oui.
Arthur, qui est un jeune joueur de vielle, qui fait de la vielle depuis 3 ans, et qui a découvert la vielle suite à une animation que j'ai faite dans une école, et qui a eu très bon goût d'être attiré par cet instrument. Allez, viens.
Ben, je m'appelle Baptiste Poulet, j'ai 30 ans, j'enseigne la vielle au conservatoire de Nevers. J'ai commencé la musique, j'avais 10 ans, j'ai pris des cours dans ce même conservatoire avec Dominique Forge pendant plusieurs années, le conservatoire dans lequel j'ai obtenu mon DEM, mon diplôme d'études musicales. Et puis, depuis 4 ans, je suis professeur de vielle à temps plein.
Ah, on commence par s'accorder.
Et je joue également de la cornemuse et de l'accordéon diatonique dans différents groupes, dans différentes formations, et notamment dans la musique de bal. C'est ce qui m'intéresse le plus et ce que j'aime le plus faire.
Ben, ça tombe très bien parce que avec Arthur, on travaille là-haut sur ces montagnes, qui est un air collecté dans le répertoire d'Achille Millien. T'as eu le temps de jouer un petit peu cette semaine?
Oui.
On regarde ce que ça donne, en entier.
D'accord. Alors, par contre, le déprime, j'y arrive pas, moi.
Allez, on va faire au maximum de ce que tu peux faire. Va, prêt. 3, 4.
L'enseignement, il permet vraiment aux élèves d'accéder plus rapidement à un niveau et dans l'idéal de dépasser le prof. Et donc, on voit bien les jeunes musiciens sur la scène actuelle, ils ont des niveaux et une réflexion artistique qui est quand même très impressionnante. Et je comprends aussi que ceux qui ont vécu dans le moule associatif, qui ont appris par transmission orale, etc., puissent ne pas y trouver leur compte. Après, c'est chacun qui fait son choix. Je pense que la musique traditionnelle, c'est une musique qui évolue. De toute façon, c'est pas une musique qui est figée dans le temps, et que la manière dont elle se transmet peut aussi évoluer. Et pour moi, c'est pas un contresens d'avoir un enseignement dans un conservatoire si les élèves, après, font la démarche aussi d'aller dans des festivals, d'aller rencontrer d'autres musiciens sur le terrain, parce que c'est aussi le rôle des musiques traditionnelles, c'est d'animer la vie du quotidien et de se rencontrer entre personnes, de jouer ensemble, de faire danser les gens.
Pelou a ses métus dans le lit, et les pièces de l'émémère dévoulent le bouneau sur la tête, puis la couverte, sur le feuillon. Et puis les petites feuillots arrivent, et toquent chez l'émémère. Entends-nous, mes petites amies du bon Dieu. Que dit le loup? Les petites entendent, puis les petites avient le loup. Mémère, qu'a dit? De ben des grands pouets. Aujourd'hui, le patrimoine oral ou le patrimoine culturel immatériel ne sont pas séparés de l'écriture et des objets. C'est comme enregistrer. On a un centre de documentation avec des milliers d'heures d'enregistrement. Ben, enregistrer, c'est écrire. C'est aussi un objet. Donc effectivement, c'est bien rappeler qu'on tout cela est mêlé et qu'il faut bien comprendre comment se produit l'oralité. À partir de quel moment on est sur un support de l'oralité et on n'est pas en train de pratiquer l'oralité. Enfin voilà, c'est comprendre aussi toute cette chaîne, quoi.
Donc nous allons vous jouer une suite de deux bourrées à deux temps. La première, c'est La Belle sur le navire, qui est notamment issue du collectage de Barbia et Touraine dans le Berry, mais qu'on retrouve aussi dans une version d'Arménien. Et la deuxième, c'est une bourrée de temps
à la pique du jour ou à la pointe du jour, collectage aussi de Mélien dans plusieurs versions.
Le grand collecteur du Nivernais, c'est Achille Millien. C'est même un des grands collecteurs français. Parce que Achille Millien, qui doit être né en 1838 et mort en 1927, a eu la chance de s'intéresser beaucoup à l'art populaire. Et surtout, il a eu la chance d'avoir un papa qui avait une certaine fortune. Et donc, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a vécu des rentes. Enfin, on va dire qu'il n'a jamais travaillé, qu'il lui a rapporté de l'argent, quoi, en fait. Il a dépensé la fortune familiale à faire son collectage. Et pendant 30 ans au moins, il a sillonné tout le Nivernais en élargissant un petit peu, et il a collecté systématiquement toutes les chansons qu'il a entendues. Alors évidemment, il s'est retrouvé d'une commune à l'autre avec des variantes de la même chanson, et le résultat, et alors il n'a pas collecté que les chansons, il a collecté aussi les contes. Le résultat de sa collecte, c'est 900 contes et 2600 chansons. C'est énorme ce qu'il a collecté.
Donc c'est un collecteur de poésie, en fait, lui. Et c'est aussi pour ça qu'on l'adore, je crois, c'est qu'il avait cette bonne idée de ne pas être musicien. Et du coup, il se concentrait sur le texte, mais il faisait venir Jean-Yves ou Jean-Grégoire Pénavert.
Jean-Grégoire
Pénavert, qui venait, lui, ne noter que la musique. Donc pour moi, c'est les plus beaux collectages que je connaisse, parce que Pénavert était concentré sur la musique elle-même. Et puis, je suis persuadé qu'il avait l'oreille absolue, donc il notait vraiment ce qu'il entendait. Et je pense qu'ils avaient tous les deux déjà une démarche un peu de scientifique. Parce que régulièrement, Pénavert s'ennuie à écrire des changements de mesure, des choses qui ne sont pas très faciles à écrire. Mais prenez soin vraiment de noter les irrégularités, alors que d'autres collecteurs, au contraire, faisaient rentrer la musique des paysans et des paysannes dans un moule de musique savante, ce qui l'a terriblement appauvri, quoi. Alors les collectages de Pénavert et de Millien restent à réinventer toujours, hein. C'est loin d'être une écriture sainte, mais c'est quand même hyper inspirant parce que c'est déjà assez complexe. Et ça nous incite, je pense, à aller trouver non pas plus de complexité, c'est pas la complexité qui m'intéresse, mais de vie, quoi.
T'es partante pour un beau matin ?
Ouais, je vais tenter.
Et c'est de qui, un beau matin ?
Collectage de Achille Millien. En fait, il y a des morceaux dans Millien où, pour les faire rentrer en rythmique de danse, il y a des trucs qui sont un peu on rabote un peu des trucs. Et celle-là, en fait, c'est un morceau où on a pris exactement ce qui est écrit. On a juste changé la tonalité.
C'est mais hyper fidèle à...
C'est une valse, en fait. C'est un des rares morceaux écrits en valse, en fait.
Ok.
Vraiment. Un beau matin, me suis levé plus matin que la lune. Un beau matin, me suis levé plus matin que la lune. J'entendais l'alouette qui dans son chant disait galant, tu vois des filles qui ne sont pas pour toi. De là je m'en suis allé vers le je m'en suis allé vers le père de mamie. Bonjour le père de mamie, bonjour te sois donné, donnez-moi votre fille, mon cœur en est charmé. Je vous remercie, galant, l'honneur que vous me faites. Je vous remercie, galant, l'honneur que vous me faites. Ma fille est trop jeune, n'a pas encore 15 ans. Allez, galant, voilà, je vous perds votre temps. Les larmes aux yeux, m'en suis allé vers mamie Marguerite. Les larmes aux yeux, m'en suis allé vers mamie Marguerite. Bonjour mi Marguerite, bonjour te sois donné. Je viens de chez ton père, mon congé m'a donné. Si ton congé t'a donné, ton congé tu dois prendre. Si ton congé t'a donné, ton congé tu dois prendre. Je suis encore jeunette, je n'ai pas encore 15 ans. J'ai bien le temps d'apprendre pour plaire à deux amants. Je me suis levé plus matin que la lune. Un beau matin, me suis levé plus matin que la lune. J'entendais l'alouette qui dans son chant disait galant. Tu vois des filles qui ne sont pas pour toi.
Oh, ben, que dit Lou, c'est pour mieux te réchauffer, mes petits amis du bon Dieu.
Oui, ben, quand même.
Mais mère, tu m'as des grandes oreilles. Oh, ben, t'as dit Lou, c'est pour mieux t'écouter, mes petits amis du bon Dieu. Ben, oui, mais t'es ben des grands ongles. Ah, ben, dit Lou, c'est pour mieux t'es pas une nez, t'enlever les poux. T'es pas une nez, mes petits amis du bon Dieu. Oui, mais mère, mais quand même, t'es ben des grandes dents. Oh, ben, c'est pour mieux te mger. Ben, là, les petits te disent, mais mère, il a trop envie de picher, il a trop envie de picher. Si t'es pour qui me sauve, mémé, t'es qu'à mettre un petit bout de fil et les pattes, tu veux voir, il veut pas me sauver.
Sur les instrumentistes et instrumentistes femmes, donc tu me disais qu'il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Est-ce que tu pourrais nous parler de certaines qui ont été, je sais pas, plus importantes pour toi?
Aucune. Moi, je les découvre là. En fait, il y en a aucune qui a servi de modèle parce qu'elles sont pas nombreuses. Et puis, de toute façon, c'est que des femmes. Donc, depuis quand les femmes serviraient de modèle, n'est-ce pas?
Aline Pilon, joueuse de viola.
Personne ne sait. J'ai entendu personne se réclamer de s'inspirer du jeu de Nisvo, par exemple, qui est une joueuse de diatto. Et puis, oui, il y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a eu une pratique, mais ce qui n'avait pas d'importance et qui était en aucune façon encouragé, comme disait Caroline tout à l'heure, c'est un rôle public quand t'es musicien, peut-être encore pire que quand t'es chanteur. Et il n'est pas question d'avoir un rôle public quand t'es une femme, en fait, c'est aussi simple que ça. Parce que le métier de musicien, c'est quand même beaucoup fréquenter plein de monde, à des heures indues, n'est-ce pas? Tu passes la nuit.
Se vendre.
C'est se vendre. Et puis de toute façon, tu vas te marier, puis tu vas avoir des gosses, donc tu ne vas pas investir sur un instrument pour toi. Donc tu peux prendre l'instrument du tonton ou du grand frère quand il n'est pas là, mais je pense que ça se joue là, quoi.
Aussi cette manière dont on a cru que la culture était organisée quand on a fait des collectages au départ, c'est-à-dire cette histoire qu'un répertoire c'est une liste de morceaux, c'est une liste de chansons. Moi j'ai fait beaucoup de collectages et je me suis rendu compte qu'avec les femmes, surtout, mais je pense que c'est valable avec les hommes, sauf que les hommes, ils nous donnent peut-être plus ce qu'on veut entendre parce que c'est plus facile à assumer. Avec les femmes, on a cette tendance à associer un bout de musique, un bout de récit, un air fredonné, une tasse de café qu'on boit ensemble, et puis on repart sur un air fredonné. Et puis, en fait, le répertoire n'est pas forcément une catégorie de pratique. Nous, on se dit, ouais, c'est un musicien, il a un répertoire de 10 morceaux de musique, 15, 30 morceaux de musique. En fait, un artiste populaire, c'est pas des gens qui rentrent dans des catégories.
Le musicien populaire est un instrumentiste qui joue généralement seul, surtout au début du 19e. C'est un musicien animateur, on l'appelle ménétrier. Un ménétrier, c'est par définition un musicien qui joue de la musique à danser. Mais on ne peut pas que jouer de la musique à danser quand on anime un mariage, quand on anime une fête, quand on anime les célébrations de la Révolution, les fêtes révolutionnaires, parce qu'il n'y avait pas assez d'instrumentistes, on va dire, classiques dans les petits bourgs. Il y a des joueurs de cornemuse, de tambour, de hautbois, qui sont embauchés pour la journée, pas toujours payés d'ailleurs, après coup, qui sont embauchés pour jouer ces musiques-là.
Et les femmes, elles sont d'autant plus caractéristique de cette autre manière d'organiser sa mémoire, de cette autre manière de transmettre, parce qu'elles n'ont pas à le faire en public. C'est de l'art au quotidien, en fait. Voilà. Et si on avait pensé l'art populaire comme ça, en allant voir ces femmes, on se dit, ouais, comment l'art rentre dans le quotidien, ça aurait été beaucoup plus facile, en fait, pour les femmes de s'exprimer de manière multiple.
Où t'en es, là ?
Le fromage. Mais c'est si tu veux, hein, sinon on reviendra. Si t'es fatigué, on reviendra une autre fois.
Qu'est-ce qu'il y a donc?
Il reste le fromage, le tunnel de Saint-Germain, le pantalon beige et la robe grenat. Puis peut-être bien encore plein d'autres que tu sais puis qu'on sait pas.
Bon ben, oui,
Ah, ça pourrait bien se faire.
Ou le fromage et les pommes. Oui, les
pommes. C'est pas long le fromage en plus, je crois.
Oh, bah peut-être pas. On va le mettre plus. C'est long, pas long. C'était un soir après le gueuleton, ayant boulotté comme quatre, Sébastien, le père Drummond, se disputait prêt à se battre. La question était au sujet d'un petit fromage à la crème. Il était si beau, si bien fait, que chacun voulait bouffer soi-même. Le père Drummond s'écrie soudain, afin que la discussion s'achève, le fromage sera mangé demain par celui qui fera le plus beau rêve.
Moi, j'aime bien Alice Bonny, parce qu'elle a une voix où elle cherche pas à... C'est l'inverse de Germaine Bernard au niveau de la voix. Germaine Bernard a une voix très aérienne, très à la fois très retranchée, très sûre d'elle. Enfin, retranchée, timide, quoi. Elle est très consciente qu'elle a une belle voix et qu'elle elle s'entend chanter. Et Alice Bonny, elle a vraiment une voix, on dirait pas une voix de chanteuse. Encore moins avec nos critères actuels. Et déjà pas beaucoup avec les critères en général sur les voix de chanteuses, mais elle chante. Et elle envoie le boulet.
J'ai vu le ciel s'entrouvrir, et le bon Dieu parmi ses anges, qui s'empressait d'accourir afin de chanter ses louanges sur un beau nuage de feu. Deux aigles blonds et magnifiques m'emportèrent vers le ciel bleu au son d'une douce musique. Dit Sébastien, c'est épatant. Cela se passait justement où je commençais aussi mon rêve. Alors, quand je t'ai vu partir dans le ciel bleu, sur un nuage, j'ai cru tu n'allais pas revenir. Ma foi, moi j'ai bouffé le fromage. Mais elle est pas mal non plus, hein. Vous avez jamais attendu. Mais c'est quelqu'un qui chante mieux que ça.
Ah, mais tu chantes bien, mais si, alors, dis donc, Alice, tu chantes.
Chanter ces chansons, là.
Mais non, mais tu chantes très, très bien.
Je veux bien chanter les chansons, comme je dis, ils font plein de sens.
Mais si, c'est si, tu chantes très bien.
Voilà. Est-ce Denise que tu peux décrire la photo pour nous, s'il te plaît ? Alors, Denise Vaux, ben, elle est là sur la photo, elle est au premier plan avec sa blouse, son ventée, comme on dit ici. Hein. Ils appelaient ça le tissu dégravé, c'est des petites fleurs, qui est pour ne pas se salir. Elle est dans un pré, et derrière elle, on voit une vache, un veau et une autre vache colorée. Étonnant, c'est une vache blanche, un veau blanc et une vache colorée sur le fond là. Voilà, et elle regarde de face. Alors c'est une toute petite photo, on n'arrive pas bien à voir, hein, mais elle est brune. Voilà, je sais pas trop comment de plus. Et puis on voit Madame Germaine, comme disait Aline, qui n'a pas mis son nom de famille, t'as raison. Et là, elle est en train de tricoter sur un banc devant le mur de sa maison. Voilà, elle est habillée en robe. C'est l'été, je pense, parce que... Mmh. Enfin, voilà, elle est une... Pareil, elle a son devanté aussi, hein, pour pas se salir. La même chose. Il y a un travail qui a été fait sur plusieurs années avec Germaine Bernard, notamment, qui a essayé de faire un peu ça, parce que Germaine Bernard était quelqu'un avec une très forte personnalité, qui ne voulait pas donner des répertoires comme ça. Elle avait un cahier de chant, mais elle ne voulait pas donner des morceaux à la suite. Elle avait l'impression, je pense, moi je surinterprète un peu, elle me l'a un peu dit, parce que je suis allée la voir. Elle n'aimait pas être... Elle avait l'impression d'être un peu, je ne sais pas comment dire, sans que ça soit trop fort, mais...
C'était pas sa place de donner un répertoire.
Est-ce que tu te souviens de cette première rencontre avec Madame Bernard ?
Ah, je me rappelle très bien, parce que alors, Madame Germaine Bernard, c'était une excellente chanteuse. Hein, elle est décédée il y a peu de temps, en fait. C'est quelqu'un qui a vécu plus de 90 ans. Et c'était quelqu'un de très sauvage. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour prendre contact, c'était pas facile. Une fois qu'on était rentré dans la maison, qu'on avait pu s'installer dans le salon, elle nous parlait pas mal du contexte dans lequel elle chantait, comment elle avait appris, etc. Mais pour la faire chanter, c'était, on avait, comme on dit, on avait bien ramé, parce qu'elle n'avait pas envie de chanter, en fait. Hein. Donc elle nous avait montré ses cahiers de chant, tout était noté. Enfin, toutes les paroles étaient notées, il n'y avait pas de mélodie, elle ne savait pas lire la musique, hein, donc il n'y avait aucune mélodie de notée. Mais oui, elle était plutôt sur ses réserves. Et puis, je me rappelle très bien lui avoir dit, ah, vous savez, moi, je vous ai entendu il y a longtemps, c'était sur les disques de la Poêlée, on vous entendait chanter Montembert. On l'a réadapté en bourré de temps, depuis, quoi. Et c'est devenu un tube. Et alors là, il y a eu un déclic. Elle dit, ah bon, il y a des gens qui chantent ça. Je dis, oui.
On y va. En revenant de Montembert, en traversant tous ces jolis bois verts, j'ai rencontré une jolie bergère qui coupait du bois dedans mes forêts.
Elle a vraiment une voix absolument merveilleuse et magnifique et une façon de chanter qui est très très belle, avec un vibrato magnifique et des ports de voix aussi, moi, qui me touchent particulièrement. Dans le cadre de mes études, on me l'a un peu reproché de faire des ports de voix, et en fait après je me suis rendu compte que bah, peut-être que c'était aussi parce que les personnes que j'aime écouter qui chantent dans la musique traditionnelle en font. Et voilà, ça me touche particulièrement, en tout cas sa façon de chanter, elle est empreinte de plein d'émotions, et du coup, voilà, moi ça me donne vraiment beaucoup d'émotions.
Et je la prends, je la renverse, de sur la belle herbe le long du chemin.
Là, il y a un truc, je sais plus.
Après, là. La poudre de mon fusil s'est trouvée trop humide, et jamais le coup n'a voulu partir. Oh mon beau monsieur, moi je n'en reviens pas, que cela vous arrive à vous un bon bourgeois. Un bon chasseur doit connaître ses armes. Chaque fois qu'il tire son fusil, il doit partir.
Il y a beaucoup de femmes qui se défendent de « Oh non, mais celle-là, je la connais pas bien. » Et elles font une phrase de chant. Et on les écoute. Et elles s'arrêtent en disant, puis elles racontent la suite de l'histoire. Bah après, ça se passe comme ça, patati patata. Mais elles chantent pas. Et je me dis, mais pourquoi ? Et les collectages des années 70, début années 80, ça a été beaucoup fait pour retrouver du patois. Et ça met une barrière supplémentaire, j'ai l'impression, pour les interprètes. Parce que j'en entends pas mal qui disent « Ah non, mais moi, le patois, je le parle pas. Ah non, mais des chansons à patois, je les connais pas. » Ou des chansons du Morvan, j'en connais pas. Alors qu'en fait, elles sont du Morvan. Mais c'est une espèce d'assignation à résidence, je pense, des collecteurs qui les bloquent un peu dans leur recherche de répertoire. Si vous me posez la mauvaise question, je ne vais pas savoir y répondre parce que je ne vais pas relier votre question à ma manière de ranger, moi, ma mémoire. Je pense que c'est lié à un truc comme ça.
Habitant de tout âge à l'heure du repos, en attendant l'ouvrage, écoutez quelques mots d'un jeune militaire revenant de la guerre, contemplant de bonheur. Ce soldat brave et sage rentrait dans son village avec la croix d'honneur, avec la croix d'honneur. Allons à la fontaine.
Et sinon, j'aime aussi une chanteuse qui s'appelle Apolline Crène et qui a juste une chanson qui est vraiment, pour moi, marquée traditionnelle, Le meurtre du soldat. C'est une horrible histoire de soldat qui revient incognito chez ses parents, qui l'égorge dans la nuit pour récupérer sa bourse. Enfin voilà, c'est des trucs qu'on ne verrait plus de nos jours, n'est-ce pas ? Et j'aime bien sa voix, en fait. J'aime bien sa manière de dérouler l'histoire. Et elle, je me demande toujours, en l'entendant, je me dis, mais en fait, Millien aurait mis, il l'aurait pas collecté, il aurait dit, non, mais ça, c'est trop moderne, j'en veux pas. C'est B parce que la mélodie, c'est une mélodie très connue qui s'utilise pour chanter une chanson. C'est un timbre, en fait, pour chanter l'eau et le vin, souvent. Et sa manière de chanter, je pense que Milien serait dit « Oui, non, mais ça, c'est des trucs trop modernes, j'en veux pas, moi, je cherche de l'ancien. » Et je pense qu'il aurait trouvé, en plus, c'est ça le pire avec Milien.
« Venez pas, ma chère, je vais taire mon nom. Je veux voir si ma mère, sous l'habit militaire, connaîtra son fils. Je parlerai d'Afrique, mon père Dominique, on sera tout surpris. »
Le loup est au pas ben malin. Elle est prise au bout de l'âne, dans les couvertes, elle l'est étéchée les pattes de l'Eptiote. L'Eptiote est sortie dehors, elle a cassé le bout de l'âne, elle l'est étéchée Hippo, un poteau, qui était dans le mi-temps de l'équoire, puis l'Eptiote, elle se sauvait les quatre pattes et les fouets. Le loup qui était dans le lit, a tiré sur les cordes, sur le bout de l'âne, a tiré. Bon Dieu, 500 milliards de Dieu, qu'a dit, ma quoi qu'a fait. Le loup s'est levé, quand il fut dehors, avis que l'Eptiote est opulé, qu'elle est au perti, le loup se mit dans les patarous à l'eau pratiquement et boulet de canon dans le beau, pour rétréper l'Eptiote. L'Eptiote courut, et l'Eptiote est arrivée chez lui. Elle a ouvri les portes, fromé la porte, elle est tout tranquille chez lui. Mal loup d'aller. Elle est courue très très vite, puis elle est arrivée devant les portes, à se casser le feignon sur les portes de l'Eptiote. Mais le loup est resté dehors. Et puis c'est ce qu'on dit. Peut-être ben caillou encore.
Quand on joue de la musique trad, on ne fait pas que jouer de la musique, en fait. On met dedans des instants de vie. Et quand on transmet la musique, on transmet des instants de vie. Les informateurs nous ont transmis la musique qu'ils jouaient, mais quand ? Sur des moments de vie, des moments où ils ont fait jouer dans des balles, ça correspondait à des choses précises où, par exemple, ils ont appris des morceaux avec eux-mêmes d'autres informateurs avant et du coup, ils se rappellent de la personne comment elle était, le jour où ils sont allés faire le collectage. Et voilà. Et du coup, moi, je trouve c'est important voilà, de le redire tout le temps, c'est oui, des fois, il y a deux phrases et oui, c'est simple. Mais en même temps, si c'était pas simple, on n'aurait pas pu le retenir en chantant des paroles à la con dessus pour monter le chemin puis jouer de son instrument quand on sortait des balles et puis voilà et peut-être que du coup on se l'est approprié autrement, on a peut-être simplifié des choses, complexifié d'autres et du coup la tradition orale passe beaucoup par la transmission et la transmission c'est quelque chose qui est palpable et c'est pas juste un morceau de papier où on va écrire deux parties musicales, c'est beaucoup plus que ça. Et moi du coup dans ce morceau là moi c'est mon morceau des mariages et des enterrements, j'ai rencontré mon morceau, voilà. Et quand on me demande de venir jouer pour l'enterrement de mon voisin ou pour le mariage de ma cousine ou pour l'enterrement de ma mère, et ben en fait, c'est ce morceau-là que je joue. En fait. C'est ce morceau-là que j'ai joué. Et du coup, ce morceau-là, maintenant, quand je le transmets à des personnes... pardon. je le transmets avec tout ça dedans aussi. En fait, c'est toutes ces émotions et ces rencontres qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a des morceaux. Des fois, c'est pas juste le morceau musical, c'est tout ce qu'il y a derrière. Voilà.
C'était musicienne en Nivernais Morvan, l'art au quotidien. Merci à Caroline Darou, Aline Pilon, Aline Dumont, Vincent Belin, Justin Bonnet, Élise Charles, Maya Belin, Baptiste Poulet et Philippe Poulet. Merci aussi à Benjamin Meunier, Lorraine Brosse, Gladys Roupsart, Arthur, Morgane Bouchard et tous les participants et participantes du Baluscule. Merci à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne pour l'accueil et les archives. Merci au Conservatoire de Nevers et à l'École de musique de Clamecy. Prise de son, Florent Layani, Delphine Baudet et Mathieu Bérény. Mixage, Antoine Espel. Attaché de production, Maud Nourry. Musicienne en Nivernais Morvan, L'art au quotidien, un documentaire d'Aliette Delalleux, réalisé par Max James. Musique.